Bonjour à tous. Chaque mois, en plus de la partie actualité et conversation du podcast, la Dev Team vous propose de partir à la rencontre de développeurs en France et au Japon. Pour ce premier épisode de la troisième saison, on reste en France et plus précisément à Montpellier où je suis allé rencontrer, dans leurs locaux, plusieurs membres du studio GearProd qui vient tout juste de sortir son premier projet, Echo Squad, un jeu vidéo grandeur nature. Echo Squad, c'est une attraction ludique et interactive dans laquelle vous prenez les commandes d'un sous-marin, le Red Squid. Entre amis ou entre collègues de bureau, vous formez un équipage de 4 à 6 personnes et prenez place dans l'habitacle du vaisseau pour partir à l'aventure au fond des mers. Je retrouve Adrien Vert, l'un des développeurs du jeu à l'intérieur même du sous-marin. Il nous explique les différents rôles de l'équipage, à commencer par le mécanicien.
C'est un petit peu le maître machiniste à bord, donc tout le monde va se tourner vers lui dans les moments critiques pour qu'il tienne le coup. Donc il a son démarreur, son levier d'admission pour mettre de la pression dans la chaudière, il a son levier de vitesse, et il a notre dispositif qui permet de distribuer la puissance à tous les autres postes. Donc comme un peu dans Star Wars, mets la puissance au bouclier chez Wii, c'est un petit peu le gameplay qu'on a construit sur le mécano. Et donc lui il va pouvoir un petit peu aider ses coéquipiers en leur donnant de la puissance et en leur permettant de faire des actions héroïques.
Nous sommes à l'arrière de la cabine. Juste en face du poste du mécanicien se trouve celui du sonar.
Lui, il a un écran sonar avec une perception assez lointaine de tout ce qui l'entoure. Il va détecter les alliés, les menaces tout autour du sous-marin. Il peut aller écouter précisément certains bruits qu'on croise au fond des mers. Vous imaginez bien que l'océan est tranquille, il ne s'y passe rien. Du coup, il va pouvoir comme ça anticiper un petit peu les dangers, guider aussi le pilote, parce que lui, il a un affichage plus global, on va dire. Donc il peut guider le pilote, lui dire « Ah tiens, il y a tel objet, c'est loin devant nous, c'est à telle profondeur, il faut aller le récupérer, etc. etc. » Donc c'est un rôle qui est, on va dire, plus d'observateur. Moi, quand j'ai designé ce poste, je me suis dit j'aime bien ce profil de joueur qui a pas envie d'avoir le poids de l'action sur les épaules, mais qui aime être plutôt en ange gardien dans la partie. Et donc ce poste est un petit peu fait pour lui. Il a des responsabilités, on va dire, assez fortes, mais il a pas le poids de foncer dans un mur ou ou rater ses tirs.
Au centre de la cabine, deux postes dédiés à la fois à l'exploration et au combat. Les postes d'artilleur.
Et lui, il agit sur les côtés du sous-marin, donc il a les tubes lance-torpilles avec lesquels il peut défendre le Red Squid des dangers qui rôdent au fond. Et il a aussi des grappins qui lui permettent de récupérer des choses au fond de l'eau et qui lui permettent aussi de s'accrocher sur les rochers quand il y a des courants, par exemple, ou quand il y a des choses comme ça. Il va pouvoir un petit peu aider le pilote à naviguer dans les turbulences. En étant bien aux aguets. Il voit aussi pas mal de choses parce qu'il mine de rien, il a des grands hublots, donc il peut bien faire vigie aussi un petit peu sur le sous-marin et découvrir des choses ou être attentif, on va dire, à ce qui rôde autour.
Plus en avant de la cabine, un siège dédié au rôle de capitaine.
Alors le capitaine, c'est le rôle un petit peu de superviseur, on va dire, du sous-marin. Il a à sa disposition une grande carte qui lui permet de voir un petit peu la globalité de la mission. Il a aussi une lettre cachetée avec des informations secrètes dessus qu'il va pouvoir ouvrir et consulter pour guider son équipage à travers les fonds marins. Il a aussi quelques petites commandes spéciales, donc qui sont un bouton rouge, Voilà, un gros bouton rouge. Je vais laisser un petit peu de mystère sur ce
bouton. On sait pas à quoi il sert ce bouton rouge.
On sait tout à fait à quoi il sert, mais je ne vais pas le dire. Okay. Il a ça, il a un bouton qui lui permet de passer en mode furtif, qui lui permet de faire passer le sous-marin en mode furtif, donc pour échapper, on va dire, au danger qui pourrait rôder. Et puis il a aussi un carnet de bord, un manuel de bord où il y a énormément d'informations, donc il va pouvoir consulter et qui vont lui donner des indices sur ce qui se passe autour de lui et qui va pouvoir justement utiliser pour guider les autres et pour les aider dans leur aventure.
Enfin, tout à l'avant de la cabine, devant le grand hublot frontal, le dernier poste, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du pilote du sous-marin.
C'est lui qui va diriger le sous-marin, tout simplement. Il a sa grande barre qui peut tourner comme celle d'Albator. C'était un des prérequis quand on a fait le sous-marin, c'est qu'on voulait la barre comme dans Albator, on peut la lancer à toute vitesse pour faire tourner le sous-marin. Il a ça. Il a aussi le levier de ballast qui lui permet de plonger ou de remonter dans le fond de l'océan. Et il est aux premières loges puisque c'est lui qui va. Il a le plus grand hublot et c'est lui qui voit venir les choses directement sur le sous-marin. Donc voilà, c'est le rôle un petit peu de casse-cou, on va dire, dans le sous-marin, mais c'est un rôle beaucoup dans la manipulation, et souvent c'est un petit peu celui à qui on dit « Attends, attends !»
Alors là, je pense qu'on va
quand même
préparer un tir à tribord.
Je suis prêt à tribord.
Alors attends,
aussi,
tire.
À la manière d'un escape game, une partie d'Eco Squad dure environ une heure. Une heure pendant laquelle les joueurs doivent travailler ensemble pour manœuvrer le sous-marin dans des zones ouvertes et des couloirs parfois larges, parfois étroits, parfois remplis de mines. Si le sous-marin est trop endommagé, les hublots se referment, une lumière rouge remplit la cabine, il faut absolument réparer le sous-marin avant de continuer.
Et là, il va falloir chercher quels sont les bons leviers, les bons boutons à aller couper pour pouvoir dériver, on va dire, les systèmes du sous-marin pour pouvoir le faire repartir et le réparer. Parce que bien évidemment, plus il prend des dégâts, plus il se fait endommager, moins il marche bien, ce sous-marin. On peut même casser entièrement des postes, couper l'écran du sonar parce qu'on a pris une torpille mal placée. Et puis, il n'y a plus le choix, il faut réparer parce que sinon on perd des éléments vitaux du sous-marin. Ce qui est important dans le sous-marin, vraiment là on l'a vu, c'est les joueurs où ils s'amusent le plus, c'est d'échanger les rôles finalement, c'est-à-dire de ne pas rester bloqué sur son poste toute l'expérience, c'est de tourner, de tester un petit peu tout, de tester le mécano, le sonar, le pilote, et au cours de l'aventure, voilà, se répartir les rôles. Des fois il y a besoin de deux personnes sur le poste du mécano parce que tout est en train de se détruire, de s'autodétruire, etc. Donc il faut réagir rapidement. Parfois, on est deux devant le sonar en train de se dire « C'est quoi ça? Tu penses qu'on devrait passer par là ?» Et voilà, il y a vraiment des moments où la tension va être plus sur certains postes ou plus sur d'autres. Et donc ça permet à tout l'équipage de changer, de bouger, de paniquer tous ensemble dans le sous-marin. Et c'est ça qui fait que c'est une expérience collective qui est chouette à vivre à plusieurs, quoi.
Arrêtez
les moteurs.
Ok, il est en train d'ouvrir. Descends un petit peu.
À l'avant, débuleur et bobine de condensation.
Là, je vais aller tout droit, capitaine.
Attends, bobine de condensation, s'il te plaît.
Bobine de condensation.
Et là, essayez de rentrer à l'intérieur. Ouais, c'est ça, il va falloir arriver.
Un tout petit peu de vitesse.
Après la visite du sous-marin, je retrouve Adrien, Gilles et Julien, trois des développeurs de Eco Squad, pour en savoir plus sur le projet, ses origines, son business model et son futur.
Alors moi, c'est Gilles Raymond, je suis associé fondateur Gearprod, et donc Gearprod, c'est le nom de la société, et EcoSquad, c'est donc notre première attraction, notre premier jeu. Voilà, je suis à l'origine du projet, et j'ai rassemblé autour de moi Adrien et Philippe, qui sont les deux autres associés, donc on est à part égale, on est équitablement répartis, voilà, en termes de mise de départ et en termes de responsabilité. Je suis un joueur, pas un hardcore gamer jeu vidéo, pas non plus un casual. J'ai une culture jeu vidéo, mais bien inférieure à celle des autres personnes dans le projet. Par contre, j'ai une grosse culture jeu de rôle et jeu en général. Et au niveau professionnel et en termes de compétences, je suis... informaticien généraliste, on va dire, mais avec des notions aussi en informatique industrielle, dans tout ce qui touche au hardware. Et j'ai une grosse expérience professionnelle très, très variée, donc plein d'entreprises différentes, ce qui m'a amené aussi une réflexion et des envies en termes d'organisation du travail dans la société. Voilà, puis j'étais chef de projet, tout ça, donc... J'ai pas mal roulé ma bosse, et à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue organisationnel, j'avais une grosse expérience et des grosses envies. Et donc là, dans le cadre du jeu, j'ai fait tout ce qui est l'étude technique préalable. J'ai supervisé la partie hardware et j'ai beaucoup bossé sur l'organisationnel. Et de fait, forcément, vu ma position, je suis aussi sur de la relation publique, sur... des aspects commerciaux, après un peu tout, comme Adrien aussi, sur ces aspects-là, quoi.
Ouais, salut, du coup moi c'est Adrien Vert, je suis aussi parmi les trois fondateurs de Gearprod. Je viens plutôt moi du milieu du jeu vidéo, j'ai travaillé un petit peu à Ubisoft, j'ai aussi donné des cours de game design pendant pas mal de temps. Je travaille un petit peu aussi dans le jeu vidéo indépendant. Et voilà, après je suis le plus jeune de la bande, donc j'ai moins d'XP. mais bon, ça n'empêche pas que ça fait quand même très très longtemps que je suis un gros joueur, que je suis aussi organisateur de jeux de rôle grandeur nature, avec Gilles notamment. Donc tout ça, ouais, ça me fait quand même un gros bagage de designer, on va dire, de designer d'expérience. Et sur EcoSquad, je m'occupe plus particulièrement, on va dire, du design. Alors, j'ai le titre ronflant de Creative Director, mais en pratique, on est une toute petite équipe, du coup, c'est vraiment plutôt du multi-casquette, donc game design, level design, tout ce qui va être aussi product owner dans la méthode Scrum, donc vraiment plus dans la, on va dire, gestion de projet, mais au jour le jour, sur les choses qu'on va implémenter dans le jeu. Et puis après, comme Gilles, c'est-à-dire relations publiques, gestion de la société, scanner des factures, voilà. Ouais. Toutes les joies d'avoir sa propre société. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps sur plein de domaines différents. Voilà, je m'occupe aussi en partie du décor, du bricolage, voilà, plein de choses différentes.
Alors je m'appelle Julien Lafont. Je suis responsable de toute la partie software sur le projet EcoSquad. Donc ça veut dire que je m'occupe de tout le développement logiciel. Et ça va aussi jusqu'à plusieurs aspects techniques qui sont récupérer les informations qui émanent du sous-marin et les intégrer directement dans le moteur de jeu pour que ça devienne des informations à utiliser dans le logiciel. Avant, je travaillais chez Ubisoft. J'y ai travaillé pendant 13 ans en tant que gameplay programmeur. Et je passais aussi pas mal de temps à faire du jeu de rôle grandeur nature, en compagnie de Gilles et Adrien. Ouais. Et ça m'a vraiment nourri cette envie de rapprocher la profondeur de gameplay qu'on peut avoir dans le jeu vidéo avec l'immersion qu'on peut avoir dans le grandeur nature. C'était vraiment l'idée qu'on pouvait pousser une expérience très loin et en même temps tout de suite plonger les gens dans une ambiance, leur faire ressentir combien ils sont pris dans tout ce qui se passe, pris dans l'aventure, pris dans l'action. C'est vraiment ce mélange-là, moi, qui m'a nourri pendant des années, et c'est vraiment là où je me retrouve dans EcoSquad.
Gilles, Adrien et Julien se connaissaient avant de commencer l'aventure EcoSquad. Leur objectif, créer un jeu immersif qui permet à tout le monde, à tout type de joueur, de retrouver le plaisir du grandeur nature sans les contraintes ou les barrières du volontariat liées au jeu de rôle.
Tout au long du développement, d'ailleurs, c'est un truc qui revenait souvent. On revenait tout le temps à cette idée de notre but à nous, c'est vraiment de mélanger l'immersion du grandeur nature et la profondeur de jeu du jeu vidéo. Et ça nous a permis vraiment d'avancer en ayant un objectif. Au final, notre jeu vidéo, on l'a vraiment ciblé sur le moment où on rentre dans notre sous-marin, on rentre dans notre ambiance, et à partir de là, la magie opère. C'est vraiment ce qu'on voulait, c'était ça. C'est qu'il y ait ce mélange de on est actif, on est dans un univers qui est vraiment celui du jeu, qui est vraiment celui de notre expérience. Et au milieu de cet univers, il n'y a rien qui nous en sort, à aucun moment. Ça a vraiment guidé notre production et ça nous a aidé à vraiment à savoir comment, bon, je dirais pas empêcher les problèmes, mais en tout cas les résoudre vraiment de la manière la plus efficace pour nous possible.
Ouais, il y a une notion qui est importante, c'est la notion d'immersion et la notion de je rentre physiquement dans un sous-marin. On se rend pas forcément compte de l'impact que ça a, mais ça c'est typiquement une réflexion en rapport avec le jeu de rôle grandeur nature. Je rentre physiquement dans tout ce qui ressemble énormément à l'habitacle d'un sous-marin. J'ai une ambiance sonore, j'ai des lumières, j'ai des dispositifs qui sont physiques, qui sont relativement réalistes. Et tout d'un coup, je vais commencer à agir dedans, je vais commencer à prendre physiquement les commandes. En fait, ça joue sur nous. C'est-à-dire que psychologiquement, l'expérience, elle n'a rien à voir avec celle d'un jeu vidéo. Où le jeu vidéo, on va rentrer, on va déjà apprendre à utiliser le dispositif dans le cadre du jeu vidéo, que ce soit le clavier, la souris, la manette. Il va nous falloir un certain temps pour rentrer dedans et le jeu va finir par nous immerger, mais sur la durée avec... Voilà. Là où, ici, physiquement, on rentre dans l'espace et donc ça agit directement sur nous. On est projeté dans l'histoire et dans l'aventure.
La cabine du sous-marin, avec ses 6 postes de commande, ses nombreux tuyaux et ses nombreux boutons, participe énormément à l'immersion du jeu. Mais de quoi est-il fait exactement, ce sous-marin ?
Alors, le sous-marin, c'est un peu comme une manette de jeu qu'on aurait faite intégralement. C'est à la fois la manette de jeu, c'est à la fois les écrans. Voilà, donc ça veut dire qu'on va faire ce qu'on appelle nous les commandes et les feedbacks. Donc les commandes, c'est ce que les joueurs font au travers des dispositifs. Donc tourner un levier, appuyer sur un bouton. Et les feedbacks, c'est tout ce qu'on renvoie. Donc les écrans, on a 3 grands écrans de plus de 4 mètres de large qui sont vus à travers les hublots du sous-marin. On a aussi l'écran du sonar, donc ça c'est des feedbacks un peu classiques. Et on a rajouté à ça énormément de feedbacks physiques qui sont des LED, qui sont des afficheurs à aiguilles, qui sont des afficheurs numériques, qui sont des choses dans l'esprit du sous-marin, donc plutôt low-tech, plutôt industriel, et qui vont renforcer le sentiment d'être dans un dispositif qui est réel.
À ça s'ajoute le son. On a toute une installation et tout un travail de son pour plonger dans l'ambiance. Les fonds marins, ça marche bien quand tu as vraiment cette impression que tous les sons sont graves, que tu es vraiment pris dans les profondeurs. Et on s'est régalé à mettre des enceintes de partout et à pousser les caissons de basse pour vraiment le faire ressentir. Ça a été quand on a branché les basses et qu'on s'est mis dans l'ambiance, ouais, c'était cool. Ouais. Ouais, ce jour-là, on était contents.
Ouais. On a un travail sur l'expérience, sur la mise en scène. Les spécialistes de ça, dans un autre registre, c'est Disney et c'est les spécialistes de pendant 3 minutes, vous en prendre plein la vue. Et tout est fait, l'environnement complet de ce que vous vivez est maîtrisé techniquement et tout a été poncé, tout a été vraiment voilà. On s'est inspiré de ça, mais nous on voulait faire un jeu, on voulait faire quelque chose d'interactif, donc on s'est inspiré, on a pris les technologies qui étaient abordables et on a tout poussé au maximum. Et il y a cet aspect magicien, il y a cet aspect mise en scène qu'on retrouve dans le jeu de rôle grandeur nature, Pour le coup, dans ce cadre-là, on va avoir des moyens très limités. Nous, on avait des moyens un peu supérieurs, mais on n'avait pas les moyens de Disney. Donc, on a trouvé les solutions, comme on dit, hein, si on n'a pas d'argent, il faut être malin. Donc, on a trouvé les solutions pour maximiser l'expérience et l'effet sur les gens, tout en s'envolant pas trop en termes de budget, quoi.
La structure, on a fait appel à un ébéniste pour, on va dire, les gros morceaux, pour que ce soit que ça tienne debout, que ce soit carré, que ça ne s'effondre pas. Et après, on a bossé avec notamment Laurent et Ariel, qui eux... alors Laurent, il vient comme moi des Beaux-Arts, donc on a cette formation un petit peu artistique. Et Ariel, elle est plus un background, on va dire, de costumière. Elle était chef costumière. Et bah, le doué avec tout ce qu'elle touche, donc globalement très très bon, très très bon touché pour tout ce qui est décor, peinture, etc. Donc à nous trois globalement, on a géré l'ensemble de la pâte artistique qu'on retrouve physiquement dans le sous-marin. Donc les couleurs, les éléments de décor et puis l'ambiance en général, on va dire.
Voilà. Et les tuyaux.
Et les tuyaux, tous les tuyaux.
Pour arriver à cette prouesse à la fois technique et artistique, il a donc fallu bien plus de 3 personnes, et des compétences très variées.
Parce que on doit réaliser un jeu vidéo, donc c'est déjà beaucoup de compétences différentes réunies. En interne, de ce point de vue-là, en interne, on s'occupe vraiment de ce qu'on nous appelle gameplay programming, vraiment. Donc c'est la partie, le cœur, tout ce qui est au-dessus du moteur de jeu, les mécaniques de jeu, tous les aspects techniques. Et après, tout ce qui est partie son, on travaille avec Emeric, parce que c'est vraiment une compétence à part. Et pareil, on n'a pas de profil graphique, donc on n'a personne qui sait faire des modèles 3D, qui sait faire des maps, qui sait faire même des effets de lumière, etc. Du coup, tous ces éléments-là qui sont très importants pour le côté réaliste de l'expérience, on les a sous-traités à un autre studio, qui est Milgar, pour ne pas le citer. Et après, ça c'était pour la partie jeux vidéo, mais après on a la partie interconnexion, on a la partie électronique, on a tous les dispositifs. Voilà, donc on a plein de différents aspects. On a travaillé avec un bureau d'études en électronique, parce qu'on n'était pas capable de faire toute cette partie-là. Par contre, nous, après, on a toute la gestion de ce qu'on appelle le logiciel embarqué, donc c'est vraiment tout ce qui permet la communication dynamique, sans perte, avec une bonne réactivité, qui fait que les gens ne se posent aucune question. Ils appuient sur un bouton, ça marche, ils tournent la barre, ça marche. Et voilà, c'est beaucoup de travail, mais quand on l'utilise, ça marche et ça fonctionne. Donc du coup, en interne, sur le développement, c'est surtout l'équipe de développement gameplay programming. Après, à côté de ça, on a aussi des gens qui font du graphisme, parce qu'en fait, faire un produit c'est bien, mais il faut communiquer dessus. Donc, sur tout ce qui est communication, donc on a une production de choses pour parler de notre projet, on va dire. On avait un concept artiste qu'on a sollicité au début. Les jolis dessins qu'on peut voir à droite à gauche, c'est lui. Et on va basculer en mode commercial, donc on va renforcer nos équipes commerciales pour la suite. Puisque notre objectif, c'est pas simplement de faire un sous-marin et de l'exploiter en propre. C'est même pas notre but de l'exploiter en propre. Notre but, c'est vraiment de le répliquer et de le mettre à disposition d'exploitants à Montpellier, en France, en Europe et ailleurs.
Dans le monde.
Côté jeux vidéo, EcoSquad utilise le moteur Unity.
C'est un moteur qui nous permet d'avoir des cycles d'itération qui sont très courts. On peut très facilement tester ce qu'on développe. On peut facilement être dans des conditions de résultat final, se mettre en position de joueur. Et ça nous permet aussi c'est un moteur qui est très ouvert. Donc c'est une vraie facilité pour nous de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des jeux vidéo, comme piloter plusieurs boutons, plusieurs leviers, plusieurs cadrans et plein de types d'affichages différents au sein d'un moteur de jeu vidéo. C'est un exercice qui n'est pas habituel dans un moteur de jeu et Unity simplifie pas mal la tâche pour nous là-dessus. C'est un moteur qui est très libre sur la manière dont tu veux intégrer des données, dont tu veux ouvrir le logiciel. Ça nous permet à nous de ne pas passer par leur système à eux de gestion des boutons et des claviers, qui peut être limitant. Et on utilise notre propre système pour aller récupérer les informations qui nous intéressent sur notre matériel. Et on récupère tout ça, on le formate et on l'utilise directement dans Unity, dans un format qui lui est compréhensible. C'est quelque chose qui nous a demandé pas mal de réflexion, mais qui, en termes de mise en place, a été plutôt facilité par ce moteur.
Et quand Unity ne suffit pas, l'équipe crée ses propres outils.
EcoSquad, c'est plus qu'un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo grandeur nature. Donc on se heurte vraiment à des problématiques de gérer des tas de boutons, de capteurs. On a vraiment fait des recherches en électronique et on a vraiment dû penser ça avant même de commencer à vraiment jouer à notre jeu, de savoir comment est-ce qu'on allait récupérer les informations qui émanent de plein de périphériques différents, que ce soit des boutons, des leviers, des commandes de lumière, enfin tout ce qui compose l'aventure. Ça a vraiment été un premier travail de récupérer tout ça. Pour récupérer toutes les informations qui émanent du sous-marin, on utilise un système qui nous est propriétaire, qu'on a développé avec l'aide d'un bureau d'études montpelliérain, d'un bureau d'études en électronique. On a conçu des cartes qui nous permettent de plugger des boutons, des leviers et plein de matériel électronique ensemble et de récupérer tout ça au travers d'un canal de communication qui est récupéré ensuite dans un logiciel qui renvoie tout ça à Unity sous forme de données assez classiques pour des développeurs. C'est un peu osé de dire ça, mais disons qu'on on s'est vraiment armé contre les problèmes. On a passé beaucoup de temps à développer des outils qui nous permettent de facilement itérer, malgré le format assez peu conventionnel de notre jeu. On s'est armé de plein d'outils et de plein de manières de pouvoir tester, malgré le fait que des fois, on n'avait pas les boutons, on n'avait pas les leviers, on n'avait même pas l'affichage des fois qui était là. Et on a vraiment bossé sur comment faire pour se rapprocher de l'expérience, même si elle n'est pas déjà présente, même si elle n'est pas réaliste, si elle n'est pas encore, ne serait-ce que si elle n'est pas encore branchée, parce que ça prend du temps de faire de l'électronique. Et on a vraiment beaucoup développé d'outils qui nous aident à tester le plus rapidement possible, sans avoir à supporter ces contraintes. On pouvait déjà tester sur des versions où il n'y avait pas de décor, ou même il n'y avait pas de levier, il n'y avait pas de bouton. On utilisait on utilisait des tablettes, on utilisait des pads de console, on utilisait plein de choses qui nous permettaient de pouvoir faire comme si c'était vrai.
On quitte l'aspect technique et on s'intéresse à présent à l'origine du projet. D'où vient l'idée du jeu ? Et comment Gilles a-t-il réussi à rassembler les fondateurs du studio Gearprod autour du concept de jeu vidéo grandeur nature ?
L'origine, c'est déjà une envie qui était motivée par, d'une part, une envie négative qui était que je commençais sérieusement à m'ennuyer dans mon travail, et même si je changeais régulièrement, je sentais bien que c'était pas ça mon truc. Et l'autre côté, c'était essayer de trouver, quitte à faire quelque chose par moi-même, essayer de trouver quelque chose qui conjuguerait ma compétence technique et sur des choses qui me plaisent, hein, qui m'intéressent, avec ma passion qui était autour du jeu de rôle et du jeu de rôle dans la nature, du jeu vidéo. Donc j'ai cherché pas mal. D'ailleurs, genre 3 ans avant le projet, j'avais commencé à réunir des gens. J'avais pitché 2 idées et on m'avait expliqué qu'en fait, c'était nul. Dans l'absolu, c'était pas mal, mais c'était pas intéressant en termes de marché, etc. Voilà, donc j'avais déjà, avant, j'avais déjà envie, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et je cherchais vraiment l'idée. Et je suis tombé sur les escapes, j'ai essayé les escape games et tout d'un coup, ça s'est mis en place dans ma tête. Le côté, c'est génial de faire un truc physique avec ses amis. C'est vraiment une expérience super cool. Du coup, c'est très accessible parce que c'est physique et parce que c'est concret. Et par contre, ça a des limitations par rapport à ma notion justement de jeu de rôle, la notion de... on va me raconter une histoire dans une escape, mais rapidement, on va me demander de résoudre des problèmes qui sont difficilement, c'est extrêmement difficile de justifier la présence de 15 énigmes qui suivent dans le cadre de l'histoire qu'on m'a posée au départ. Donc on est sur un petit décalage, etc. Ça reste très cool, mais c'était un truc qui me gênait. Et après mon passif en informatique industrielle et autres, j'ai fait le lien entre tout ça et je me suis dit, mais il y a vraiment un truc à faire. Il y a vraiment une expérience à proposer qui a des bases de jeux vidéo et qui par contre va prendre tous les aspects super sympas de l'expérience Escape Game. Voilà. Et donc ça, c'était l'idée de départ. Il y avait aussi un petit projet de jeu vidéo autour du sous-marin, mais qui était un petit truc sur tablette juste pour se faire plaisir, où Adrien et d'autres, on avait travaillé ensemble. Et une fois que j'ai eu cette notion-là, je suis tout de suite allé voir Adrien, je suis tout de suite allé lui en parler. Et après, la petite blagounette, c'est le troisième, c'est Philippe. C'est-à-dire, genre 2 mois après qu'on a commencé à travailler avec Adrien sur le truc, je connaissais Philippe et on faisait du jeu de rôle et du jeu de rôle grandeur nature et du jeu de plateau. Et je savais qu'il était directeur administratif et financier. Voilà. Bon. Pour des gros groupes. Et du coup, je dis, viens, passe à la maison. Un samedi après-midi, on va discuter, je te présenterai mon truc et tu me diras ce que t'en penses. Moi, je voulais de l'info, je voulais du conseil. Résultat, il passe un après-midi, on discute dans le jardin, dans le petit jardin de la maison que j'avais là-bas, à Tours. Et à la fin de l'après-midi, on était associés. C'est-à-dire que il était ultra convaincu par le projet. Il avait une compétence qui était évidemment ultra intéressante pour notre équipe. Voilà. Donc, c'est comme ça que s'est constituée l'équipe. Et je ne regrette pas du tout, parce que moi, je pense qu'on a une très, très bonne équipe.
Ouais, c'est assez cool, parce que finalement, tous les trois, on est très complémentaires sur des domaines super différents. Philippe, c'est beaucoup plus, on va dire, la partie chiffres, la partie financière, la partie projection aussi du modèle économique que Gilles et moi, on n'avait pas forcément imaginé au départ, puisqu'on était plus partis sur un truc, on va faire un truc dans un garage, on va monter une petite escape, ça va être sympa, etc. etc. Et avec les moyens du bord, on va dire, mais dans l'idée de s'amuser, de créer un truc vaguement rentable, mais surtout sur lequel on aurait pu vraiment s'amuser. Mais quand Philippe est arrivé, qu'il a mis le nez là-dedans, globalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté des zéros partout. Il a aussi trouvé une échelle on va dire, un niveau de moyen à partir duquel ce serait mieux, l'expérience serait plus cool, et aussi elle serait viable. C'est-à-dire, c'est toujours plus simple d'avoir quelque chose qui est rentable, qui est viable pour aller parler à des gens, leur faire envie, on va dire. Et ça, c'est vrai que ça a bien marché. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est créé avec Gilles, qui avait l'envie forte de faire ce projet de jeu très immersif, très cohérent aussi. Enfin, ça, Gilles, c'est l'ayatollah de la cohérence.
Oui, c'est moi.
Il faut que tout soit très, très cohérent dans le jeu. Et c'est cool, d'ailleurs, parce que du coup, on a une exigence de travail pour rendre tous les éléments consistants, on va dire, dans l'expérience de jeu. Moi, j'ai plus été sur les aspects, on va dire, gameplay, ce qu'on pourrait dire user experience, c'est-à-dire vraiment si je me mets dans la place du joueur, qu'est-ce que j'ai envie de trouver à l'intérieur du jeu, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quelles sont les sensations que je veux que ça me procure, où est-ce que je vais m'amuser, où est-ce que je vais m'ennuyer, etc. Donc vraiment construire la consistance dans la profondeur du jeu. Et Philippe, beaucoup plus sur la partie réalité économique du projet, pour lui donner corps et pour permettre aussi d'exister, d'évoluer, de grandir. Et d'arriver là où on en est. Ce qui est très important aussi, c'est donc on a trois profils qui sont très complémentaires et on se challenge en permanence sur tout. C'est-à-dire que je suis challengé sur le design, Philippe il est challengé sur la partie économique, Gilles il est challengé sur la partie technique et ça tourne comme ça et ça crée on tire le projet vers le haut. Je dirais avec ça, et c'est là où c'est super intéressant. Moi, je pense qu'il m'a fait grimper à bord, on va dire, de l'expérience. C'était cette idée de créer quelque chose qui n'existe pas, créer quelque chose qu'on n'a jamais vu, et créer un jeu qui donne envie depuis qu'on est gamin, quoi. C'est-à-dire
Je le répète souvent, hein, mais c'est le cockpit du Faucon Millenium, quoi. C'est Chewbacca va réparer ça dans les machines et, et Luke tire sur ce chasseur-ti, quoi. C'est vraiment ça qu'on voulait. Enfin voilà, on a tous eu un petit peu au fond de nous, et moi c'est là-dessus que j'ai été accroché carrément sur le projet. Je me suis dit ouais, faut le faire parce que personne l'a fait et que tout le monde en a envie inconsciemment.
À la base, Echo Squad doit être un one shot. Mais rapidement, l'idée se transforme en un projet réplicable partout dans le monde, ce qui entraîne évidemment de nombreuses contraintes. Par exemple, la taille de la cabine du sous-marin est au format d'un conteneur maritime.
On n'a pas choisi ces dimensions innocemment, mais il y a plein d'autres aspects en fait, du développement qui font qu'on a réfléchi cette expérience pour qu'en fait, finalement, elle puisse être reproductible ou elle puisse être dérivée vers d'autres. Là, c'est un sous-marin, on peut imaginer en faire un vaisseau spatial, une montgolfière, n'importe quoi. Nous, la technologie derrière nous le permet. Et c'était beaucoup de travail de penser dès l'origine du projet les choses pour que ça soit possible.
Ça correspond à mon passif de travail dans l'industrie, où justement on passe beaucoup de temps pour faire des choses robustes, globalement. Voire on passe beaucoup de temps pour faire des choses robustes et évolutives. Et en l'occurrence, on a vraiment développé une technologie donc, qui consiste à interconnecter un moteur de jeu, en l'occurrence Unity, mais je pense qu'on pourrait faire la même chose avec Unreal, par exemple, avec tout un tas de dispositifs hardware, de manière très, très simple, très souple et très versatile. Donc, voilà, la techno, elle permet de connecter Unity avec n'importe quoi. On est sur une logique de produits clés en main, de produits sur étagère. Et on est sur une logique de... On a analysé, alors là on parle un peu plus business, on a analysé un petit peu les besoins, les forces et les faiblesses d'un exploitant. Et on a dit on va fournir tout ce qui n'est pas de son domaine et lui laisser vraiment là où il est performant. Donc typiquement, un exploitant, si, par exemple, on installe un lieu Echo Squad avec plusieurs sous-marins à Paris ou à Lyon, bah, il faut connaître Paris ou Lyon. Donc tous les aspects locaux, c'est vraiment le travail de l'exploitant. La relation client au quotidien, c'est le travail de l'exploitant. Par contre, qu'est-ce qui n'intéresse pas un exploitant, c'est installer la salle. C'est pas son problème, lui, il veut une salle qui fonctionne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réplique de manière petite échelle, petite série au départ, et puis de manière de plus en plus industrielle, mais on va répliquer le sous-marin. Il ne veut pas s'occuper de l'installation, il ne veut pas s'occuper de la maintenance. C'est normal, ce n'est pas lui, c'est pas son taf. Donc c'est nous qui prenons en charge la maintenance. Et après, le point important qui vient derrière, c'est que le sous-marin, c'est une grosse console de jeu. C'est-à-dire, c'est un matériel sur lequel on peut faire tourner des jeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a développé une mission, mais à partir de là, on a fait le plus dur du travail. Maintenant, on peut développer d'autres missions. Et chaque mission, ce sera comme une nouvelle variante. Si on se réfère aux escapes en termes de escape game, en termes de modèle, eh ben, à la fin de l'année prochaine, on aura 3, 4 missions, 5 missions. Pour la personne qui a un sous-marin, c'est une énorme plus-value. C'est-à-dire qu'il a une salle qui peut modifier pour proposer 5 choses différentes et faire venir son public, le même public, 5 fois. Voilà. Et s'il y a un nouveau public, il peut quand même réutiliser la première mission. C'est pas un problème.
Oui, c'est des temps de jeu différents, c'est des publics différents. Et nous, on a vraiment cette idée de faire des missions qui vont s'adresser au plus large public, quoi. C'est-à-dire, je suis avec ma famille, j'ai envie d'un truc où on va découvrir des choses merveilleuses. J'ai pas envie de tirer sur d'autres sous-marins ou de me faire tirer dessus. Certes, go, il y a une mission pour vous. Et à l'inverse, je suis un gamer, je suis là pour être en compétition, machin, etc. Mais il y a aussi une mission pour ce public-là et où ils vont s'amuser, ils vont s'éclater. Et nous, une fois qu'on a construit la console, la manette, le casque VR géant, tout ce qu'on veut, enfin, je sais pas comment, enfin, le sous-marin, quoi, faire du contenu, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, ça nous permet de nous adapter au public super rapidement, quoi.
On va développer un mode coopératif. On pourra, dans deux sous-marins, trois sous-marins, N sous-marins différents, travailler de concert à une mission. On pourra appeler à la radio nos potes qui sont dans un autre sous-marin pour leur dire « qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? On est dans le tunnel, on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, mais je suis en train d'être attaqué par... » Oh, voilà. Et aussi le mode compétitif qui va être « je vais pouvoir faire à la poursuite d'Octobre Rouge. Je joue le russe, je joue l'américain. Et c'est parti. Ce ne sera pas des russes et des américains parce qu'on a un univers original. Mais on va se retrouver avec des mécaniques de sonar, furtivité, combat, qui vont normalement, je pense, intéresser beaucoup les gamers. Là, ça va être une team contre une autre, voire une team à Montpellier contre une team à Paris, où voilà, on pourra faire des affrontements à longue distance.
De nouvelles missions sont donc prévues. L'équipe estime que pour créer une nouvelle mission, il leur faut 2 à 3 mois environ.
Ouais, en 2-3 mois, on a vraiment, c'est vraiment rajouté un niveau sur un truc qui est complètement réalisé. Avec en plus le fait qu'on a construit la console et que la console on la réutilise. Donc on est vraiment sur c'est du level design. Enfin
c'est aussi des nouvelles briques de gameplay qu'on va introduire dans chaque mission. Ça va dépendre de la mission qu'on fabrique, on va dire. Mais globalement on a fait le plus dur, c'est-à-dire qu'on a fait la console, on a fait l'interface à la perceuse et à la disqueuse, mais on a fait l'interface. ce qui change des jeux vidéo d'habitude. Mais une fois que ça c'est fixé, après nous on fait ce qu'on veut côté soft. Et c'est le gros point fort du projet par rapport à beaucoup d'autres en fait, c'est que on peut refaire une expérience entièrement nouvelle très rapidement en fait.
EcoSquad est un projet vraiment très ambitieux, bien plus ambitieux qu'un simple jeu vidéo. Pour le mener à bien et tenir les délais, l'équipe adopte la méthode agile Scrum.
Quand j'ai monté le projet, j'avais une réelle envie de travailler autrement. J'avais fait une analyse sur quelles étaient les motivations, alors pour les développeurs, pour le coup, vraiment, puisque moi j'étais développeur, et j'avais fait plusieurs constats. J'avais fait le constat que la motivation qui fait que je suis performant, productif dans ma journée, je vais avoir de l'énergie pour le travail, c'est pas du tout le salaire. Le salaire, c'est une contrainte, c'est quelque chose qu'on négocie une fois, et après, au quotidien, c'est pas du tout ça qui nous fait avancer. Ce qui nous fait avancer, c'est le projet, c'est l'équipe dans laquelle on est, et c'est la capacité à faire du bon travail. Je pense que 98% des développeurs sont motivés à faire du bon travail, quel que soit le travail. Voilà, donc ça c'est un point hyper important. Et du coup, il était crucial pour moi, comme j'allais avoir des développeurs dans l'équipe, de trouver le moyen de favoriser ça, d'exploiter cette motivation de manière pragmatique. C'est-à-dire que c'est positif pour les gens parce qu'ils sont contents de travailler, et c'est positif pour nous parce que ils sont contents de travailler, donc ils travaillent bien, tout simplement. Et du coup, on s'est tourné vers la méthodologie agile et plus précisément Scrum parce que ça correspondait à ces valeurs, à cette envie qu'on avait de mettre en place dans le travail. Et après, sur les aspects, une fois qu'on a dit ça, donc déjà, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais c'est du travail, c'est complexe à mettre en place, ça prend du temps, et tout ça. Donc la mise en place peut faire peur, mais très rapidement, on a récupéré le temps d'organisation, de mise en place. On a très vite récupéré ça en termes de productivité. Moi, j'ai été chef de projet et je n'ai jamais aussi bien maîtrisé un projet que en Scrum, alors que je ne faisais pas de gestion de projet de manière classique et que j'avais beaucoup moins de pouvoir entre guillemets sur l'avancée du projet.
Ouais, c'est assez formidable de penser très longtemps en se disant. C'est vraiment la meilleure manière de faire, c'est vraiment, faudrait que tout le monde fasse ça, faudrait qu'on le fasse, faudrait qu'on s'y mette. Et puis d'arriver sur un projet et dire, c'est nous qui avons les clés de la machine, et donc on va le faire. Il n'y a plus de barrière, on va dire, à ça, puisque c'est nous qui dirigeons le projet. Et du coup, l'appliquer et voir que ça fonctionne, c'est un côté très très satisfaisant. Et ça nous a permis, en fait, d'avoir un planning. On a regardé là, dernièrement, le planning qu'on a fait il y a un an et demi, tombe bien par rapport à notre phase actuelle. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. donc c'était super cool. J'ai vu pas mal de projets de jeux vidéo qui fonctionnaient souvent pas en Scrum ou alors en disant qu'on fait de l'agile, mais on fait pas de l'agile. Et là, voilà, on a dans l'équipe, on avait des tout le monde était convaincu en fait de fonctionner en méthode agile. Julien avait très envie de travailler comme ça. Gilles et moi, pareil. Alain, qui nous a rejoint, qui dev pour nous, a été Scrum Master. Il était product owner. Et après, on a eu deux stagiaires, Arnaud et Edouard, qui eux, terminaient leur formation et ont fait leur stage de fin d'études avec nous. Donc en fait, eux, ils n'ont pas eu le choix d'avoir d'autres méthodes parce qu'ils n'en connaissaient pas d'autres.
On les a formatés.
On les a formatés à la méthode agile. Et ça a extrêmement bien marché. C'était beaucoup de réunions au début, beaucoup de calages au début, etc. Puis on s'est aperçu que finalement, ces temps où on discute beaucoup de la moindre feature, où on passe du temps à s'entendre sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va travailler. En fait, c'est du temps gagné parce que quand on se met quand les devs se mettent à coder, finalement, peut-être qu'ils passent 20 minutes à coder la feature où on a passé une demi-journée. Qu'on a mis une demi-journée à discuter, mais en 20 minutes, elle fait le taf et elle fait exactement le taf qu'on veut. Il n'y a pas de travail qui est fait dans le vide et il n'y a pas non plus de travail qui est jeté à la poubelle. Donc c'est vraiment super cool et ça nous a permis d'aller très 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 vite dans les itérations et de faire de bonnes itérations avec un planning qu'on a tenu en fait. Et moi, je trouve ça vraiment formidable. C'était pas gagné, je pense, parce que finalement, on a vu beaucoup de gens dire l'agilité, mais le mettre en application soi-même et le voir fonctionner, c'est quand même super cool. Et cerise sur le gâteau, on n'a quasiment pas eu de période de crunch, c'est-à-dire que les gens ont pris des vacances quand ils devaient prendre des vacances. Peut-être il y a 3-4 jours, on a fini à 22h, un truc comme ça, parce qu'on avait un truc important à terminer, mais... sur un projet comme ça, moi j'ai vu d'autres projets qui ont dérivé en termes d'heures sup de manière hallucinante. Nous, c'est resté soft, quoi. C'est resté très 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 soft.
Il y a deux aspects qui sont importants sur la méthodologie agile qui ont été vraiment cruciaux. C'est d'une part l'effet que ça a sur les gens, c'est-à-dire qu'on part sur de la confiance, on dit aux gens « c'est vous qui savez comment faire ». C'est vous qui allez décider comment on... l'aspect qualité, l'aspect QA, qui dit on va contrôler votre travail a posteriori, on va mettre des process, etc. On l'oublie, on dit juste il faut que le travail soit terminé pour qu'on passe à la suite et pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Vous, là, vous qui allez faire le taf, décidez ensemble comment on évalue qu'un travail est terminé. Ça, c'est crucial, c'est hyper important. C'est-à-dire, nous, on vous flique pas, vous décidez vous-même. Voilà. Et c'est un effet bénéfique, c'est-à-dire que quelque chose qui est super rébarbatif et super désagréable quand on l'impose pour les développeurs, c'est les tests et tout ça. Et là, ça fait partie du process, ça fait partie de leur engagement. Et donc, ils le font naturellement. Et on ne charge pas les gens contre leur gré, c'est eux qui disent, dans les deux semaines qui viennent, on pense pouvoir faire ça. Voilà. Et on ne discute pas ça, on ne le discute pas, alors que nous, dans notre position, on aimerait bien qu'ils fassent à peu près 3 fois plus. Voilà. Par contre... ils le font. Dans la très grande majorité des cas, ils ont fait ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Le niveau de qualité est top. Et en étant réaliste, les mecs, ils ont bossé très très bien toute la durée du sprint. Donc, essayer de charger la mule en plus, on aurait perdu quelque chose quelque part. Probablement de la qualité.
Oui, et puis le fait de rentrer chez soi à 6h du soir, à la fin de la journée, de ne pas être crevé, de passer une bonne soirée, d'être détendu... du coup, tu peux penser au projet, tu peux te dire, putain, demain, ce problème-là que j'ai eu aujourd'hui, j'y réfléchis, et je suis pas sous stress de me dire, arrête de penser au travail, t'es trop fatigué, pense à autre chose, détends-toi, machin, etc. Ça devient pas un poids. Et donc, c'est plus un truc cool, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est du challenge, qui est du défi. Et on peut s'autoriser à penser au boulot et à penser boulot quand on est à la maison. Ça nous mange pas le cerveau. Et le lendemain matin, quand on arrive, on a plein d'idées et on est très réactif. Et ça n'est que positif, en fait. Ça n'est que vertueux. Et on s'en est rendu compte aussi de ça. C'est-à-dire que sur la durée, parce que faire un jeu, c'est un marathon, c'est jamais un sprint. Sur la durée, avoir ce rythme de travail qui était plus cool nous permet finalement d'être plus productif. C'est QFD, quoi.
Ouais, et le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'aspect planification. Donc on planifie pas du tout un projet agile comme un projet autre. Et en plus, ça allait particulièrement bien notre situation puisqu'on créait quelque chose avec énormément d'inconnus. des connues techniques qu'il fallait lever. Il y avait des doutes, il y avait des trucs, il allait falloir s'adapter, il allait falloir essayer. Énormément de playtests, puisqu'on fait quelque chose de complètement nouveau, donc on est vraiment, vraiment drivé par les playtests. Planifier en disant « je vais faire un cahier des charges qui va couvrir tout », c'était complètement impossible. On a vraiment pris l'agilité of the book, quoi. Donc on a dit « il y a 4 paramètres dans un projet, il y a le temps, il y a les ressources, il y a la qualité et... » Contrairement au modèle habituel, il y a aussi le périmètre. Et donc, on a dit, la qualité, c'est pas discutable, il faut que ce soit un truc qui tourne très bien tout de suite, etc. Les ressources, elles étaient fixées parce qu'on n'a pas des moyens illimités. Le temps, on a dit, on va poser une date, on va dire, on aura un sous-marin opérationnel en mai et on fera une sortie commerciale au mois d'octobre. Donc ça, c'était les dates, on les avait posées. Donc après, c'était le périmètre. Et ça nous allait très bien parce que le périmètre, on ne le connaissait pas bien au départ. Il allait falloir le découvrir, il allait falloir le truc. Donc, on a avancé et on a dit, on fait le meilleur sous-marin et le meilleur jeu possible pour le mois de mai, puis pour le mois d'octobre. Et de fait, non seulement, on a fait... je pense qu'en plus, on atteint un objectif de qualité et de complétude du produit qui est tout à fait satisfaisante au final.
Ça, finalement, les cycles de 2 semaines, ça nous apprend à être malin. C'est-à-dire que chaque fois, on avance de 2 semaines en 2 semaines et on se dit quel est le meilleur sous-marin dans 2 semaines. Il faut ajouter celle-là, cette feature-là. Puis les semaines suivantes, c'est pareil. On va sniper les trucs les plus efficaces qui vont demander le moins de ressources et qui vont ajouter le plus de fun et de trucs cool dans le sous-marin, quoi. Et finalement, de 2 semaines en 2 semaines, c'était très très brouillon, on va dire, en termes évidemment, les premiers mois, le sous-marin ressemblait pas à grand-chose. Mais très vite, quand on a obtenu ce premier sous-marin viable, on va dire, la qualité a fait un bond phénoménal. Là, ne serait-ce qu'encore les dernières semaines, c'est hallucinant toute la qualité que ça prend, alors qu'on est sur la fin du projet. C'est pas du tout linéaire en fait comme processus, et c'est assez intéressant de voir comment ça se met en place. Quoi.
Ouais, ça nous a permis aussi de mettre en pratique des trucs pour éviter dérisquer, c'est-à-dire le fail fast et le fail cheap. Donc le fail fast, c'est de dire on a un risque là-dessus, on fonce et on fait une version opérationnelle avec ça. Donc c'était complètement compatible avec Agile qui nous permettait d'avoir une version opérationnelle toutes les 2 semaines et de dire tout de suite ça, finalement non, on a perdu 2 semaines au maximum. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour nous avec peu de marge de manœuvre en termes de ressources. Et le fail cheap qui est j'essaye très vite avec un truc qui coûte pas cher. Ça peut être une installation son, on avait une installation son qui coûtait 50 euros réellement pendant très longtemps, mais qui nous a permis quand même d'avancer et d'attendre d'avoir un peu plus d'infos pour engager des frais sur le son, par exemple. Enfin, c'est un exemple parmi plein.
Touche à tout, très bien organisé, l'équipe s'essaye même à une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule.
Donc on a fait une campagne Ulule du 5 septembre au 5 octobre. Donc le but de ça, c'était de concrétiser la communauté qui s'était fédérée un peu autour de notre projet, plein de gens qui trouvaient ça cool et tout, utiliser ça pour faire parler du projet, essayer de sortir des gens qu'on avait atteints directement parce qu'on avait fait 4 soirées baptême de sous-marins. Qui permettait donc d'essayer rapidement le sous-marin, essayer de sortir un peu de ça et puis travailler ça. Et puis c'était clairement notre galop d'essai commercial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était là puis on disait aux gens on a un truc super cool, donnez des sous. Donc c'était un vrai challenge de ce côté-là. Moi, je pense qu'on a appris énormément pendant cette campagne. Et au final, on est très content du résultat. On a atteint 256% de l'objectif pour l'équivalent de 500 places à bord. On a une cinquantaine de soutiens qui n'habitent sans doute pas dans la région, qui n'auront pas l'occasion de venir jouer. Donc, c'est des petits soutiens, mais qui en disent long parce que ils ont pas la contrepartie de venir dans le sous-marin, quoi. Donc très 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 content de l'accueil, très fatigant une campagne Ulule, hein, faut faut être en forme quand on démarre parce que ça va durer longtemps et que c'est éprouvant. Non, au final, on est très très heureux, de cette campagne, du résultat et clairement, c'est directement quelque chose qu'on peut maintenant nous utiliser quand on va discuter avec des exploitants pour leur prouver qu'il y a une attente du public et que il faut faire le pas et signer avec nous pour qu'on installe un sous-marin chez eux, quoi.
À l'heure où vous écoutez ce podcast, EcoSquad a déjà reçu ses premiers visiteurs, puisque l'attraction est ouverte depuis le 30 octobre 2018.
C'est pas une date choisie au hasard, c'est très exactement l'anniversaire des 1 an de la société Gearprod. Voilà. Donc on devait choisir une date dans ces eaux-là et on a dit là ça s'y prête quand même pas mal. Et puis c'est un joli symbole, je trouve, de dire on l'a fait en 1 an.
Après le temps de la création, vient le temps de l'exploitation de l'attraction.
Alors en fait là on va exploiter donc à partir du 30 octobre sur la base d'un certain nombre d'environ 500 préventes qu'on a fait préventes individuelles qu'on a fait dans le cadre de la campagne Ulule et on va ouvrir pourra accéder à la réservation et au paiement en ligne sur notre site dans très peu de temps. Voilà, donc on va faire de l'exploitation. Donc le but de ça c'est en termes de produits, on a fait énormément de playtests, donc on est à peu près, content de ce qu'on a. Maintenant, il faut qu'on devienne exploitant pour accueillir les gens, pour faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, donc là, on va apprendre des choses. On va faire ça bien, on va quand même apprendre pas mal de choses. L'étape suivante, ça va être d'essayer de trouver, de préférence sur Montpellier, parce que ça nous permettrait d'intervenir rapidement, un exploitant extérieur avec un partenariat un peu souple, pour justement maintenant avoir un exploitant en face de nous, toujours pareil, pour essayer, pour tester, pour valider les choses, pour apprendre. Nous, on part du principe qu'on ne sait pas, en général. Voilà, et après l'étape suivante, ça sera un premier gros client exploitant, de préférence sur Paris, pour lancer l'exploitation, sachant que le but étant de réussir ces étapes-là. On a pas mal de pistes, je ne vais pas en parler ici, on a pas mal de pistes et ça devrait se faire au courant de l'année prochaine sans trop de difficultés. Et l'idée étant de réussir cette première implantation complète telle que décrite dans notre modèle économique pour pouvoir après rebondir dessus, le but étant à terme d'arriver à un mode de type franchise.
Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Moi, j'ai testé l'attraction et j'ai vraiment adoré. Donc, je vous conseille, si vous le pouvez, de venir sur Montpellier pour jouer à EcoSquad avec vos amis, avec votre famille ou carrément avec votre entreprise, car l'attraction est aussi ouverte à des séances privatisées ou à des séances de team building. Je laisse l'équipe vous expliquer comment faire.
Pour venir, il faut se rendre sur le site, il faut réserver un petit peu. Ça marche vraiment comme une escape room classique, en fait. On va trouver un créneau, trouver des amis, réserver ses places, et puis venir au Doutank. Alors, pour le coup, c'est vraiment dans nos bureaux. Suivant l'heure, il y aura sans doute une partie de l'équipe de développement qui sera encore là. Et puis, vous allez avoir droit à une introduction à l'univers du jeu. On va vous présenter plein d'éléments qui vont vous introduire tranquillement dans l'expérience. Et puis après, il sera temps de monter à bord et puis de vivre cette heure de jeu dans l'univers qu'on a créé à bord du Red Squid, avec toute la découverte, tous les dangers, toute l'aventure qu'on a mis à l'intérieur. Et suite à ça, voilà, on pourra voir un petit peu comment nos scores, comment on a performé, est-ce qu'on a atteint tous nos objectifs, est-ce qu'on a été les champions du fond des mers ou au contraire, est-ce qu'on a coulé au fond lamentablement. Généralement dans la bonne humeur, on va dire, parce que ça reste quand même une expérience de groupe qui est très très drôle et très amusante. Voilà.
La notion de score est pas au cœur de l'expérience. Hein.
Non, carrément.
C'est beaucoup plus un truc convivial, c'est-à-dire que la notion de score, elle est aussi présente que dans un escape, c'est-à-dire qu'on fait l'escape pour s'amuser et après éventuellement on regarde les scores si on a un peu l'esprit fighter, l'esprit combattant. L'autre point qui est important, je pense, c'est de dire qu'on travaille sur quelque chose de beaucoup plus à façon, customisé pour les entreprises. Puisqu'en fait, le sous-marin et l'équipage et le fait qu'on nous emmène dans un univers complètement décalé, c'est extrêmement une expérience qui est vachement intéressante. Tous les gens qui connaissent ça nous en parlent pour du team building, pour des éléments comme ça, parce que on a plusieurs choses, plusieurs éléments qui se mettent en place. On a le fait que ce soit un jeu, donc les gens ne sont pas identiques à eux-mêmes quand ils sont en jeu ou quand ils sont dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ils ont plein d'a priori, ils ont plein de défenses, ils ont plein de systèmes de défense, etc., sociaux et autres. Quand ils sont dans un jeu, donc déjà, ils vont être un peu plus naturels. Et en plus, dans un jeu très immersif qui les déstabilise en les emmenant vraiment ailleurs, ils vont être encore plus naturels. Et donc, à la fois, on a ces personnes qui sont dans un état plus sincère, on va dire. C'est naturel, quoi. Et à la fois, on va les mettre dans une situation où ils ont besoin de collaborer fortement, vraiment. Beaucoup de communiquer, de collaborer, de s'entraider, vraiment de s'entraîner, de collaborer. Donc, ils se retrouvent dans un cadre qui est vraiment très, très approprié pour le team building. Et donc, nous, on veut vraiment travailler sur ces aspects-là. Et après, humainement, moi, ça m'intéresse de découvrir un peu des choses. Et donc on a une offre qui est tournée vers les entreprises et qui est privatisation du lieu, animation autour de ça, qui permet de répondre à des attentes. J'ai encore rencontré aujourd'hui des gens qui cherchent, qui trouvent ça très intéressant dans ce cadre-là, quoi.
Les réservations se font directement sur le site du studio gearprod.com. Voilà. Avant de nous quitter, je ne peux pas m'empêcher de poser la question à l'équipe concernant tout simplement les influences, les jeux ou les films qui ont pu influencer le gameplay d'Echo Squad.
Donc on a beaucoup joué à Overcooked, qui est une grosse source d'inspiration pour nous. Mais pas que ça, on a joué aussi à Artemis Space Bridge, qui est ce qu'on appelle un SBC, c'est-à-dire simulateur de battleship, battleship simulator, bridge battleship simulator, bref. C'est en gros quelque chose qui a été développé par des Trekkies, donc des fans de Star Trek, et qui reproduit la passerelle de commandement d'un Enterprise-like, on va dire. Et donc on a aussi joué à ça. Il y a une espèce de communauté très importante sur ce jeu, qui est pas forcément très fun sur certains aspects, mais qui crache souvent, mais voilà, il a son petit groupe de fans, et malgré tout il y a quand même des choses très très intéressantes dedans. On s'est aussi penché sur des jeux de plateau, tout simplement, parce que des jeux coopératifs, finalement, quand on y réfléchit, il n'y en a pas tant que ça. Même en jeu vidéo, il y a des expériences coopératives, mais pas, jamais aussi poussées que ce qu'on voulait, c'est-à-dire avec cette notion que on est obligé de travailler les uns avec les autres. Overcooked, c'est ça. Overcooked, si tout seul, on fait rien dans Overcooked. Il faut vraiment que qu'on s'entende avec les autres. Et qu'on comprenne que la coopération fait tout. C'est-à-dire dans Overcooked, on est occupé 70% du temps de jeu, et on a 30% où on n'a rien à faire. Et c'est ces 30%-là qui posent problème, parce que généralement, on va essayer d'aider son petit camarade, et donc on bouleverse toute la chaîne, et ça casse tout dans la partie. Et c'est en comprenant ce genre de choses, en fait, finalement, qu'on a vraiment designé l'expérience pour que, finalement, tous les profils de joueurs aient leur place à bord du sous-marin, que tous les gameplays soient très, très liés les uns aux autres, vraiment intriqués les uns avec les autres. On peut parler du pilote qui a pas la boîte de vitesse, puisque c'est le mécano qu'il a, et donc il doit parler au mécano s'il veut accélérer ou freiner. Et ça crée des situations de jeu qui sont très très fun. Donc oui, on s'est beaucoup intéressé à ce genre de choses, finalement, que ce soit jeux vidéo, jeux de plateau. Escape Room, un petit peu, il y a quelques mécaniques d'Escape Room dans le sous-marin, notamment autour des réparations, où on a un petit peu de fouille, il faut aller chercher à droite à gauche où sont les bons leviers pour réparer la machine. Mais ce qui nous a plu surtout dans Escape Room, c'était beaucoup plus le credo qui dit « what you see is what you get », c'est-à-dire ce que tu vois, c'est ce que tu as, et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé, pour avoir vraiment le minimum de...
d'efforts à faire en termes de comprendre ce qui se passe dans le jeu et ce que je dois faire pour avoir ma réaction, c'est-à-dire l'interface finalement, pour qu'elle soit la plus directe possible. Bah, je vois une barre, je la tourne, le smartphone tourne, that's it. Voilà, c'est vraiment voilà, différentes choses là. Et après, nos inspirations, bah, elles sont beaucoup dans le monde, on a, dans le monde du cinéma. On parlait du Faucon Millennium, de Star Trek, du Nautilus. C'est des choses qui sont ancrées dans l'imaginaire collectif et auxquelles on voulait donner corps en fait, dans Echo Squad.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la Dev Team. On se retrouve le mois prochain pour une partie actualité et conversation en compagnie de Marc. Je remercie évidemment Marc, mais aussi Lucas et Benji pour tout ce qui est montage et mixage. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitter, @ladevteam, nous laisser des commentaires sur le site Radio Kawa et nous envoyer des questions par mail sur ladevteam@radiokawa.com. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la création de podcasts indépendants en donnant au Patreon plus d'informations sur radiokawa.com/Patreon. Voilà, on se retrouve très vite. À bientôt!
Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou,
c'est moi,
dissèque un élément d'un jeu vidéo,
un signe vidéoludique,
et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid,
le score dans le premier Megaman,
le choix dans The Stanley Parable,
la difficulté à rebours dans Braid.
Autant de raisons d'écouter ludographie comparée sur Radio Kawa. Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @radiokawa, RADIOKAWA. Et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawa.com, comme radiokawa.com, sans le point, RADIOKAWACOM. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications.